Dimanche dernier, l'évangile des Béatitudes nous brossait le tableau, le portrait du saint, Jésus-Christ bien sûr, mais aussi du saint que nous sommes tous appelés à devenir. Nous sommes tous des saints en construction. Et dans l'évangile de ce matin, comme dans ceux des dimanches prochains, Jésus va déployer ces béatitudes en nous indiquant ce à quoi elles nous mènent. Ce matin, il nous dit quelque chose d'assez particulier. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Tout chrétien, à commencer par les apôtres, les disciples du temps de Jésus, reçoivent ainsi une identité propre qui les distingue de tous les autres. Le catéchisme de l'Église catholique lit cette partie du discours sur la montagne en nous disant ceci. Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques, culturels de l'histoire. Sa mission, c'est d'être le sel et la lumière du monde. Il constitue, ce peuple, pour tout le genre humain, le germe le plus fort de l'unité, d'espérance et de salut. Il y a donc les béatitudes et la conséquence très immédiate, l'envoi dans le monde. L'ordre est important. On ne peut prétendre être sel et lumière que si on incarne d'abord les béatitudes. Le sel n'est pas du sel pour lui-même. On ne mange pas du sel comme ça. La lumière, elle ne se sert pas elle-même. Elle est faite pour éclairer autre chose qu'elle-même. Il nous faut donc être illuminés par le Christ pour devenir à notre tour lumière du monde. Il nous faut goûter la saveur du Christ, le don de sagesse, pour pouvoir en rayonner autour de nous. Il ne s'agit pas ici, dans la bouche du Seigneur, d'un vœu, d'un désir, d'une recommandation. Il s'agit d'une affirmation. Vous êtes le sel et la lumière. Vous l'êtes, que vous le vouliez ou non. Nous le sommes, tous. La question, c'est de savoir si le sel a encore la saveur de Dieu et si la lumière rayonne de la lumière du Christ. Nous avons eu cette semaine la grâce, et nous l'avons encore ce matin, de prier autour du cœur de Saint Jean-Marie Vianney, qui est un exemple parfait du sel et de la lumière. Jean-Marie Vianney a vécu dans l'Église post-révolutionnaire, affaibli dans sa foi, enténébré par les philosophes athées, anticatholiques qu'étaient Voltaire, Rousseau et tant d'autres. Curieusement, on les a appelés le siècle des Lumières. Alors, je ne sais pas de quelle lumière. À mon avis, ce n'est sûrement pas celle de Dieu. Sa paroisse, Ars, est aussi délabrée, aussi abîmée par la révolution de 1789. Lui-même donne des chiffres. Moins de 10% des mariages se font à l'Église. Moins de 10%. À cette époque, on est passé de 90% de pratiquants réguliers en 1789, avant la Révolution, à moins de 20%. Et les hommes ont tous déserté l'Église. Il n'y a plus que les femmes, les enfants et les vieux. Tous ceux qui ne peuvent pas travailler. Le respect du dimanche est rangé dans les cartons. On travaille le dimanche exactement comme on travaille le reste de la semaine. Les cabarets, les bals foisonne, détournant les fidèles de la morale chrétienne. C'est dans cette paroisse de 230 habitants qu'arrive Jean-Marie Vianney à 32 ans. Il disait, laissez une paroisse sans prêtre pendant 20 ans, on y adorera les bêtes. Notre époque le confirme, hélas. C'est dans cette paroisse qu'un prêtre qui a été exclu du séminaire pour insuffisance intellectuelle, d'une famille très pauvre, une ferme, mais pauvre, de faibles conditions, il changera toute sa paroisse. Et non seulement sa paroisse, mais toute l'Église. Faisant de ce village insignifiant un centre de pèlerinage. De partout en France et même de l'étranger, on vient à lui pour lui demander conseil, pour lui demander prière, pour lui demander la miséricorde de Dieu. Il se laisse scotcher à son confessionnal jusqu'à 14 ou 17 heures par jour. Je vous laisse imaginer. Sans oublier l'orphelinat des filles qu'il avait fondé, la Providence, sans oublier les familles de sa paroisse, sans oublier les catéchismes qu'il faisait régulièrement lui-même. Vous imaginez le temps qu'il lui restait pour dormir quand le démon ne l'embêtait pas. 200 ans après, on vient toujours à Ars. En moyenne, c'est plus de 350 000 visiteurs par an. Certaines années, c'est plus de 500 000 visiteurs par an à Ars, petit village insignifiant. On vient voir le Saint-Curé. Il brille toujours de la lumière de Dieu. Et si l'on recherche la saveur de Dieu et la sagesse, on la trouve à Ars, 200 ans après. Qu'a-t-il fait ? Il a été curé. Apparemment pas grand-chose, et pourtant beaucoup. Il a fait simplement, humblement, son travail de curé, soucieux, hanté par le salut des âmes. C'était son grand souci. Des âmes, tant d'âmes se perdent par ignorance, parce qu'ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Mais il l'a fait avec une charité telle, une générosité immense. Il a été une lumière dans son siècle. Pour tous ceux qui étaient confiés à son ministère, venant de près ou de très loin, reflétant parfaitement la lumière de Jésus-Christ, par son enseignement, par son humilité. Ses longues heures de prière, la nuit, il se laissait remplir de la lumière divine. Il contemplait le Christ. Pendant ses longues heures de confessionnal, il savait qu'il transmettait la miséricorde de Dieu. Même lorsqu'il disait « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il transmettait le pardon de Dieu, réconciliait les âmes avec Dieu, leur ouvrant les portes du salut éternel, des gens parfois venant spirituellement de très loin, très, très loin. Dans le clergé qui, à l'époque, était très abîmé, il ne faut pas oublier qu'après la Révolution, il y avait une division dans le clergé entre ceux qui étaient jureurs, qui avaient prêté le serment révolutionnaire, ceux qui étaient réfractaires, qui s'étaient battus, confessé leur foi, ceux qui s'étaient mariés, déjà. Il a restauré le sacerdoce en étant pleinement prêtre. Il avait conscience de son identité chrétienne et sacerdotale. Et rien ne pouvait le dévier. Notre époque ressemble furieusement à la sienne, en pire. Mais ce sont les mêmes défauts, les mêmes travers. La foi, la morale, tout cela est oublié, méconnu. C'est pas forcément parce qu'on ne la, on la refuse, c'est qu'on ne la connaît pas. J'ai eu il y a quelques années une maman qui me disait « Écoute, j'ai été catéchisée dans les années 70-80, autant dire que j'ai fait du découpage et du coloriage. Ah là, j'étais très doué pour le coloriage, mais je n'ai rien appris. Et aujourd'hui, moi, je dois transmettre la foi à mes enfants. Comment je fais ?» On en est là. je ne vous parle pas de l'état du clergé, la presse s'en occupe. Je ne vous parle pas de l'état de la morale, il suffit de sortir dans la rue à la sortie des lycées. Et d'autres endroits d'ailleurs. Oui, notre époque ressemble à la sienne, et nous sommes appelés à ressembler au curé d'Ars, non pas en étant tous prêtres et en mangeant les pommes de terre cuites le lundi jusqu'au samedi, sans frigidaire, s'il vous plaît. Non, c'est pas un copier-coller. Allons chercher plutôt le cœur. Qu'est-ce qui a permis à Saint Jean-Marie Vianney d'être ce qu'il a été et ce qu'il est toujours ? Du haut du ciel. Deux dévotions, desquelles il n'a jamais dévié et qui n'ont fait que s'amplifier dans sa vie. Deux dévotions incontournables que nous ne pouvons pas négliger. Car si nous les négligions, nous serions sur une fausse route. La première, c'est l'Eucharistie. Sa dévotion à l'Eucharistie était immense. C'est là qu'il venait puiser de longues heures, force, lumière, pour accomplir un ministère très lourd. Courage aussi pour supporter les contradictions, les calomnies dont il a été abreuvé. Courage aussi, charité fraternelle avec des vicaires qui se prenaient pour les curés et qui tiraient dans les pattes de son curé aussi. Grâce et force pour affronter le démon lui-même en face, qui toutes les nuits venait brûler son lit, le jeter par terre, marcher dans l'escalier au tel point que des villageois qui venaient pour le garder sont partis en courant. Lui est resté. Lui a affronté le démon en face. Il lui fallait l'Eucharistie pour cela. Il savait que ce n'était pas sa force à lui, Jean-Marie Vianney. C'était Dieu qui seul pouvait dire au démon « Stop, tu t'arrêtes là ». Et lorsque le démon venait et le fatiguait un peu plus que de coutume, il se disait « C'est très bon signe, demain j'aurai des gros poissons au confessionnal ». La foi enracinée, ancrée dans son cœur, grâce à l'Eucharistie. Il disait à propos de l'Eucharistie « Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au saint sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes et la messe est l'œuvre de Dieu. Si l'on connaissait le prix du saint sacrifice de la messe, ou plutôt si l'on en avait la foi, on aurait bien plus de zèle pour y assister. Sans la divine Eucharistie, il n'y aurait pas de bonheur en ce monde, la vie ne serait pas supportable. Il est temps, peut-être, à l'occasion de son passage parmi nous, de nous demander chacun quelle est la place que nous donnons à l'Eucharistie. L'Eucharistie dominicale, est-ce que nous la préparons à la maison avec nos enfants? Est-ce que nous y arrivons en courant après le Kyrie ou est-ce que nous prenons le temps d'y arriver suffisamment tôt, quand les circonstances le permettent, bien sûr? Une famille encombrée de ses enfants peut arriver qu'elle soit en retard parce que les enfants, parfois, c'est un peu dur à réveiller. D'accord. Mais est-ce que les retards ne viennent pas aussi parfois de nous? Si on trouve la messe toujours trop longue et l'homélie trop longue, posons-nous des questions. Cherchons-nous la foi, oui ou non? Sommes-nous prêts à y mettre le prix et à régler le four pour le rosbif autrement? Parfois, je suis au fond de l'église, et dans d'autres paroisses, je l'ai fait, à la fin de la messe. Je voyais des gens qui commençaient à sortir avant la fin de la messe, et quand ils me voyaient, ils retournaient gentiment à leur place, conscience que la messe n'est pas tout à fait terminée. Il nous faut nous poser de temps en temps ces questions-là. Et également la messe de semaine. Si nous en avons la possibilité, la messe de semaine est extrêmement féconde pour notre vie spirituelle. Je me rappelle d'une jeune fille, je vous la fais brève, qui avait de gros problèmes dans sa vie chrétienne. Je lui ai proposé de venir à la messe deux fois par semaine. Et au bout d'un an, elle m'a dit, « Eh bien, écoute, Père, quand je suis venu à la messe deux fois par semaine, j'arrivais à tenir mes résolutions, toutes, et des résolutions difficiles. Quand je manquais par ma faute cette messe de semaine, immanquablement la messe de la semaine suivante, je retombais dans mes péchés. Je vous laisse apprécier la puissance de l'Eucharistie. L'Eucharistie est la Vierge Marie. Elle a tenu une très grande place dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney. Il y était attaché viscéralement. Il n'était pas rare, quand il était petit, qu'on le trouve dans l'étable en train de prier devant une statue de la Vierge Marie au lieu d'être au déjeuner. Alors évidemment, sa maman le cherchait. Il n'était pas rare, quand il gardait les bêtes, il avait toujours sa statue avec lui, qu'il demande à ses camarades de garder les bêtes pendant qu'il allait prier la Vierge. Qui pourrait compter le nombre de « Je vous salue Marie » qu'il prononçait chaque jour lorsqu'il allait ici ou là? Il n'écoutait pas la radio en marchant, il priait le chapelet. C'est une autre fréquence. « Que je serais fâché, disait-il, si je n'allais pas au ciel pour voir la Sainte Vierge. » La Sainte Vierge nous a engendrés deux fois dans le mystère de l'incarnation et au pied de la croix. Marie, disait-il encore, se tient entre son Fils et nous. Plus nous sommes pécheurs, plus elle a de tendresse pour nous et de compassion. L'enfant qui a coûté le plus de larmes à une mère est le plus cher à son cœur. Il avait tout compris d'une cœur d'une mère. Là encore, où en sommes-nous de notre relation à la Vierge Marie? Quelle place lui faisons-nous dans notre cœur, dans notre vie, dans notre prière? Prenons-nous le temps d'aller chercher dans les évangiles tout ce qui nous est dit de la Vierge Marie et ce qu'elle nous dit? Les sept paroles de la Vierge Marie, qui sont d'une richesse incroyable pour notre vie. Prenons-nous le temps d'aller écouter la Vierge Marie. On est sûr dans l'Évangile de ce qu'elle nous a dit. Parce qu'elle nous parle comme une mère qui éduque ses enfants. La prenons-nous vraiment comme mère. La prions-nous tous les jours. Il n'y a pas de secret. Saint Jean-Marie Vianney n'est pas devenu saint tout seul. Il n'est pas devenu saint à la force du poignet. Il n'est pas devenu saint par un moralisme permanent. Il est devenu saint parce qu'il avait ses deux piliers, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Trouvez-moi un seul saint qui n'ait pas eu ces deux piliers dans sa vie. J'aimerais voir sa tête. Je ne suis pas sûr qu'il existe. Qu'il l'ait découvert tôt ou tard dans sa vie, peu importe. Demandons à Saint Jean-Marie Vianney, tant qu'il est avec nous, avec son cœur, ce cœur qui a battu dans sa poitrine, au rythme du cœur de Dieu, au rythme de l'Eucharistie, au rythme du cœur de la Vierge Marie. Demandons-lui d'ancrer, de nous aider à ancrer dans notre vie ces deux piliers de notre vie spirituelle. Nous ne ferons certainement pas mieux que lui. Faisons au moins aussi bien que lui.